France Culture.
Les nuits de France Culture.
Dans la mythologie grecque, le destin de Pinté, successeur de Cadmos sur le trône de Thèbes, n'est peut-être pas le plus connu. Il n'en est pas moins l'un des plus cruels et des plus violents. Quand il arrive au pouvoir, un culte qu'il perçoit comme étranger tente de se faire une place au soleil dans la cité. Il révère un dieu qu'il voit comme dangereux, chaotique, dont le culte est lié à la consommation excessive d'une boisson qui est l'incarnation véritable du pharmacon, à la fois remède et poison. Cette boisson, à base de raisins fermentés, entraîne les adeptes dans des transes, des expériences mystiques, des moments de joie extatique, mais aussi dans des comportements chaotiques et violents. Pinté, lui, veut une cité rationnelle, transparente, ordonnée, basée sur le blé et non sur le raisin, sur l'ordre et non sur l'imprévisible. Il tente donc de fermer les portes de Thèbes à ce dieu étrange, celui qui naquit de la cuisse de Zeus, ce dieu du vin, de la fête, de l'excès et du théâtre qu'est Dionysos. Mais ce refus lui vaut une mort des plus horribles. Alors qu'il s'était caché dans un arbre sur le mont Cithéron pour observer une bacchanale, il fut trouvé par les Ménades, les adoratrices de Dionysos, qui lui arrachèrent ses membres. Selon la légende, la première à lui arracher la tête fut sa propre mère, aveuglée par une transe dionysiaque. Nul ne refusa dès lors l'hospitalité à Dionysos, ce dieu perçu comme venant d'ailleurs, né deux fois, suscitant certaines comparaisons plus ou moins convaincantes avec la figure du Christ. Ce numéro de l'autre scène où les vivants et les dieux de Claude Métra et Philippe Nemo revient sur les métamorphoses de Dionysos et sur le sens profond de la mythologie l'entourant, avec l'historien Marcel Détienne et l'historien et archéologue Jean-Pierre Darmon. Une émission diffusée pour la première fois le 16 février 1976 sur France Culture.
Comme chaque lundi, voici l'autre scène où les vivants et les dieux, une émission de Claude Métra et Philippe Nemo. Aujourd'hui, les métamorphoses de Dionysos, avec Jean-Pierre Darmon et Marcel Détienne, et la collaboration de Robert Martin.
Une vieille légende raconte que le roi Midas a longtemps pourchassé dans la forêt le sage Silène, le compagnon de Dionysos, sans pouvoir s'en saisir. Quand il tombe enfin entre ses mains, le roi lui demande quelle est la chose la meilleure et la plus profitable qui soit au monde. Le démon se tait, rigide et immobile, jusqu'à ce qu'enfin, comme le roi l'y oblige, il profère ces paroles accompagnées d'un rire strident. « Malheureuse race d'éphémère, fils du hasard et de la peine, pourquoi m'obliges-tu à te dire des paroles qui ne te profiteront guère ? La meilleure chose au monde est hors de ta portée. Ne pas être né, n'être pas, n'être rien. En second lieu, ce qui vaudrait le mieux pour toi, c'est de mourir bientôt.
Le sort de Midas, c'est le sort de tous ceux qui ne reconnaissent point la présence nécessaire de Dionysos dans l'architecture de la création. Nietzsche nous rapporte cette légende de Midas. Et il nous murmure que si le dieu sauvage, celui qu'on appelle le bruyant, est bien au cœur de la cité grecque, c'est que les hommes, pour surmonter l'effroi de la vie quotidienne, pour dépasser l'épouvantable dérision d'une suite de contraintes et de mots qui viennent s'engloutir dans la mort, eh bien ces hommes, ils doivent périodiquement retourner à la démesure et à l'ivresse, cette ivresse qui a présidé à la naissance du monde. Car il n'y a point de jour lumineux qui ne trouve son origine dans l'obscurité nocturne, et personne, nous dit Schelling, personne ne crée jamais quelque chose de grand sans une étincelle de folie, ou plutôt sans une constante sollicitation de la folie. Mais comment, avant de parcourir les itinéraires de Dionysos, évoquer cette trace fulgurante qu'il laisse dans l'imagination des êtres? Et comment surtout relier Dionysos à notre propre obsession de l'immense puissance créatrice qui se cache derrière la pauvreté de notre expérience historique et qui se cache aussi derrière les vérités rassurantes des théologies? Alors, Revenons à Nietzsche, puisqu'après tout, c'est bien lui qui a restauré Dionysos parmi nous et qui l'a placé à la source de ce royaume de l'homme, royaume toujours à venir.
Soit par l'effet du breuvage narcotique dont parlent dans leurs hymnes tous les hommes et les peuples primitifs, soit à l'approche puissante du printemps qui émeut de désir la nature entière, on voit s'éveiller ces émotions dionysiaques qui, en s'intensifiant, amènent le sujet à perdre toute conscience de soi. Au Moyen-Âge, en Allemagne, des foules toujours croissantes erraient ainsi de lieu en lieu, chantant et dansant. Dans ces danseurs de la Saint-Jean et de la Saint-Guy, nous reconnaissons les chœurs bachiques des Grecs. Sous le charme de Dionysos, non seulement le lien se renoue d'homme à homme, mais même la nature, qui nous est devenue étrangère, hostile ou asservie, fait sa réconciliation avec l'homme, son fils prodigue. La terre offre d'elle-même ses dons. Les bêtes fauves des rochers et des déserts approchent pacifiées. Le char de Dionysos se couvre de fleurs et de guirlandes. La panthère et le tigre marchent, accouplé sous son joug.
Ainsi, à travers la révélation de ce qui relie toutes les formes vivantes, s'écroulent les citadelles matérielles et mentales qui font de nous de perpétuels prisonniers.
L'esclave devient un homme libre. Toutes les barrières rigides et hostiles que la nécessité, l'arbitraire ou la mode insolente ont mises entre les hommes cèdent à présent. Dans cet évangile de l'harmonie universelle, non seulement chacun se sent uni, réconcilié, fondu avec son prochain, mais il se sent identique à lui, comme si le voile de Maya se déchirait et ne flottait plus qu'en lambeaux autour du mystère de l'unité originelle. Par ses chants et ses danses, l'homme montre qu'il est membre d'une communauté supérieure. Il a oublié la marche et la parole. Il est sur le point de s'envoler en dansant dans les airs. Ses mouvements révèlent qu'il est ensorcelé. De même qu'à présent, les animaux parlent et la terre donne du lait et du miel. Une réalité surnaturelle parle par lui. Il se sent Dieu. Il marche extasié et soulevé au-dessus de lui-même. comme ces dieux qu'il a vus marcher en rêve. L'homme n'est plus artiste. Il est lui-même œuvre d'art. L'énergie artiste de la nature entière se révèle parmi les frissons de l'ivresse pour le ravissement suprême de l'être originel.
Le chemin, ici, est celui de l'ensorcellement, de l'enchantement. Et si l'enchantement n'est pas, la cité est menacée dans sa force vive. C'est ce que nous disent les Grecs.
Il y a deux divinités, ô jeune homme, qui tiennent le premier rang chez les hommes. L'une est la déesse Déméter, ou la Terre, donne-lui le nom que tu voudras. C'est elle qui, d'aliments solides, nourrit les mortels. L'autre s'est placé de pair avec elle. C'est le fils de Sémélé. Il a trouvé un breuvage, le jus de la grappe, et l'a introduit parmi les mortels pour délivrer les malheureux hommes de leur chagrin, en les abreuvant de la liqueur de la vigne. Le sommeil, l'oubli de leurs maux quotidiens, voilà son présent. Il n'y a pas d'autre remède à leur peine.
Ainsi parle dans les Bacchantes d'Euripide le devin Tirésias, Déméter et Dionysos, le blé et le vin, le jour et la nuit. Là, le monde se partage pour se réunir à nouveau. Nous sommes à Thèbes, mais ce monde partagé, c'est aussi le nôtre. Le pain, le vin, Marcel d'Étienne.
Le discours de Tirésias donne une espèce de lecture théologique de la nourriture des hommes. Il y a d'un côté le pain, et ce pain il appartient à Déméter, et de l'autre il y a le vin, et c'est le vin de Dionysos. Et ce que Tirésias veut dire, veut mettre en place, c'est la complémentarité nécessaire de cette nourriture de Déméter et de cette boisson de Dionysos. Et c'est ainsi, d'une certaine manière, que Dionysos est inscrit directement, mais par une décision de ce savant, de ce voyant qu'est Tirésias, il est inscrit dans la cité de Thèbes et dans ce qu'elle a de plus proche de l'humanité, à savoir cette nécessaire nourriture pour le mortel, ce qui lui permet de s'alimenter. Alors, entre Déméter et Dionysos, il y a des incertitudes. Dionysos est à la fois le dieu, la puissance qui règne sur les vignes, et ces vignes font partie du monde de l'arboriculture qui jouxte les terres à blé. Mais en même temps, Dionysos a droit de regard sur une boisson qui est le vin, et une boisson dont une série d'histoires nous raconte que sa découverte a entraîné les hommes et les plus lointains des hommes vers des régions sauvages, sombres et obscures. C'est ainsi que, par exemple, un des récits les plus familiers de l'invention du vin, c'est l'histoire d'un berger qui, conduisant ses troupeaux aux limites, aux frontières de la cité, s'en vient à perdre un animal, une chèvre qui s'est égarée et qui lui revient en titubant, en état d'ébriété. et par curiosité, il retourne vers l'endroit où la chèvre a brouté, et c'est la découverte de cette plante qu'il va réintroduire, qu'il va amener à l'intérieur de la cité, et que l'on va cultiver, qui va donner le vin. Et le vin, c'est une boisson des limites, c'est une boisson en même temps qui permet de faire le passage, d'entrer ailleurs.
Tirésias veut introduire Dionysos au cœur de Thèbes, mais contre lui se dresse Pinté. Jean-Pierre Darmon.
Pinté est le roi de Thèbes, mais c'est un roi qui ne veut pas comprendre la leçon de Tirésias, qui ne veut pas qu'une nourriture dans la cité soit à la fois le blé et le vin, qui veut choisir le blé contre le vin. Je veux dire que Pinté est un roi qui veut d'une cité claire, transparente, en ordre, où l'imprévu soit exclu, où l'irrationnel soit exclu. Une cité qui soit complètement contrôlée par les hommes. Une cité dont la seule nourriture soit le blé, c'est-à-dire ce qui pousse au centre de l'espace de la cité. Et dont on refuse, dont on exclut ce vin qui vient de l'extérieur, et qui est une nourriture troublante, cette nourriture qui peut apporter l'oubli, qui peut apporter le rêve. Et le sujet, précisément, de la pièce de Rigpind, c'est cette confrontation entre ce roi Pinté, qui veut d'une cité qui ne soit qu'humaine, qui soit toute prévisible, qui soit parfaitement gouvernable, et Dionysos, qui vient d'ailleurs. Dionysos, qui est son cousin germain, pourtant, selon la mythologie, mais à qui Pinté refuse l'entrée de la ville et refuse l'hospitalité. Et toute l'histoire, tout le déroulement de la pièce, c'est précisément la décomposition progressive de la cité que précisément Pinté prétend défendre à cause de ce refus d'accorder l'hospitalité, d'inclure dans la cité ce dieu de l'irrationnel, de l'imprévisible, des ténèbres, des lointains, du monde sauvage, ce dieu de la boisson, peut-être inquiétante, qui donne l'ivresse et qui est le vin.
L'affrontement de Dionysos et de Pinté, c'est l'affrontement de deux espaces, l'espace clos, rationnel de la cité, et l'espace sauvage qui s'étend au-delà des champs cultivés. Et pour instaurer son culte à Thèbes, Dionysos va disloquer l'espace de la cité. Cette dislocation s'accomplit selon une progression extrêmement étrange. D'abord, le dieu sauvage a ensorcelé les femmes et il les a entraînées dans un furieux délire loin des murailles où elles vont célébrer les bacchanales. Pinté a cru mettre fin au désordre qui a suivi le départ des femmes en faisant arrêter Dionysos. Et le dieu s'est laissé faire, mais c'est pour mieux atteindre le cœur même de la ville. Enfermé dans une écurie, le dieu qui a pris la forme d'un mortel se délivre et renverse le palais de Pinté. Puis il ensorcelle le roi lui-même, qui accepte de revêtir le costume bachique pour aller en voyeur regarder les femmes s'abandonner à l'ivresse divine. Car un messager lui a dépeint le spectacle extraordinaire qu'offrent dans les terres sauvages ces femmes ensorcelées.
Elles dormaient toutes, les membres détendus. Les unes appuyaient leur dos au tronc d'un sapin, les autres sur des feuilles de chêne à terre, avaient posé leur tête au hasard, décente, et non pas enivrée par le vin et par les accents de la flûte, ni ardente à poursuivre Aphrodite dans la solitude. Ta mère poussa un cri, dressés au milieu des bacchantes, pour tirer leur corps du sommeil, en entendant les mugissements des bœufs porte-cornes. Elles, chassant de leurs yeux un sommeil profond, se dressent, debout, spectacle d'une merveilleuse décence. Jeune, vieille, vierge libre encore du joug. Et d'abord, elles laissent tomber leurs cheveux sur leurs épaules et attachent leur peau mouchetée avec une ceinture de serpent qui leur léchait les joues. D'autres, dans leurs bras, tiennent un chevreau ou des louveteaux sauvages et leur donnent un lait blanc. Celles qui, venant d'accoucher, avaient encore le sein gonflé et avaient abandonné leur nouveau-né. Elles se mettent des couronnes de lierre, de chêne. L'une prend un tirse, en frappe un rocher d'où sourd une eau limpide comme la rosée. Une autre abaisse sa férule vers le sol, et là le dieu fait jaillir une source de vin. Celles qui avaient soif du blanc breuvage, du bout de leurs doigts grattaient la terre et trouvaient des ruisseaux de lait. Des tirses entourées de lierre distillaient des flots de miel sucré. Elles, à l'heure fixée, brandissent le tirse pour commencer les bacchanales. D'une seule voix, elles invoquent Iakos, le fils de Zeus. Toute la montagne est avec elles en proie au délire bachique, aussi les bêtes sauvages. Il n'y a rien qui reste immobile et qui ne court. Par hasard, ta mère passe près de moi en bondissant. Je m'élance, voulant la saisir, hors du fourré où je m'étais caché. Elle s'écrie « Oh, mes chiennes rapides, nous sommes poursuivis par des hommes. Allons, suivez-moi, suivez-moi, armez vos mains de tirse. » Nous, alors, nous prenons la fuite pour échapper aux bacchantes qui veulent nous déchirer. Mais elles fondent sur les bœufs qui paissaient la tendre verdure. Elles n'ont pas de fer à la main. L'une, tu aurais pu le voir, tient sous ses ongles une génisse mugissante aux mamelles gonflées. D'autres déchirent en lambeaux de jeunes vaches. On peut voir des côtes, des sabots fourchus lancés en tous sens. Des membres pendent au sapin. Les branches dégouttent de sang. Des taureaux furieux et qui, dans leur rage, les attaques de leurs cornes sont renversés à terre, entraînés par les mains de 1000 jeunes femmes. Il leur faut moins de temps pour déchirer et dépecer l'enveloppe de leur chair qu'à toi pour fermer tes paupières sur tes royales prunelles. Elles s'en vont comme des bandes d'oiseaux, enlacées, courant aux plaines qui s'étendent dans les vallées et qui produisent pour les Thébains les pies riches en grains. Elles saccagent tout de fond en comble, elles enlèvent les enfants des maisons. Tout ce qu'elles mettent sur leurs épaules y reste suspendu sans y être attaché, sans tomber sur le sol noir, même les reins et le fer. Dans leurs cheveux, elles portent du feu, ils ne les brûlent pas. Les habitants de colère se jettent sur leurs armes en se voyant dépouillés par les bacchantes. C'est alors que le spectacle est extraordinaire à voir, ô roi. Le fer de leurs traits ne fait pas de blessure, mais elles, avec leurs tirs qu'elles lancent, blessent leurs adversaires, leur font tourner le dos pour fuir à des hommes, elles, des femmes, non sans l'aide de quelque dieu. Puis, elles reviennent là d'où elles étaient parties, aux sources mêmes que le dieu avait fait jaillir pour elles. Elles y lavent le sang qui les couvre, et les gouttes qui coulent le long de leurs joues, avec leur langue, les serpents les lèchent. Ils sèchent leur corps qui brille.
Thank you.
Pinthée s'en va donc avec Dionysos qui le juche au sommet d'un sapin. Mais les femmes l'aperçoivent, déracinent l'arbre. Pinthée tombe à terre et les bacchantes le déchirent.
La première, sa mère, commence le sacrifice sanglant et se jette sur lui. Alors il arrache de sa chevelure sa mitre, pour qu'en le reconnaissant, la malheureuse reine ne le tue pas. Et il lui dit, en lui touchant la joue, « C'est moi, mère, je suis ton fils Pinthée, que tu as mis au monde dans la maison d'Échion. Aie pitié de moi, mère. Oui, c'est moi qui suis coupable, mais ne tue pas ton fils. » Elle, l'écume à la bouche et roulant des yeux hagards, n'a pas les sentiments qu'elle doit. Elle est possédée du dieu. Elle n'écoute pas son enfant. Elle prend son bras gauche dans ses mains et un pied sur le flanc de l'infortuné, elle le lui arrache de l'épaule, non par sa propre force, mais le dieu lui donnait l'aide de sa toute-puissance. Ino, de l'autre côté, fait de même, lui déchire les chairs. Autonoé et toute la foule des bacchantes s'acharnent sur lui. C'était à la fois toutes sortes de cris. Il gémissait avec ce qui lui restait de souffle. Les autres poussaient des hurlements. L'une emportait un bras, une autre un pied avec la chaussure. Elles mettent à nu ses flancs qu'elles déchirent. Toutes ont les mains couvertes de sang et se lancent comme des balles les chairs de Pinthée. Ses membres gisent, épars, les uns sur les rochers escarpés, d'autres sur les aiguilles épaisses des pins de la forêt. Sa malheureuse tête, sa mère l'a prise dans ses mains. Elle l'affiche à la pointe de son thyrse et la porte, comme celle d'un lion de la montagne. Elle laisse ses sœurs dans les cœurs des Ménades. Elle revient dans ses murs, fière de sa proie, invoquant Bacchos, le victorieux.
Plus tard, la reine sortira de son égarement. Mais l'affrontement s'est achevé en anthropophagie. La leçon est claire. La cité ne saurait survivre sans s'ouvrir à l'étrange, à l'obscur, à l'étranger.
Dionysos, en effet, se présente comme le dieu qui vient de l'extérieur. Il a, avec la cité de Thèbes, des attaches familiales étroites. C'est le cousin germain de Pinthée. Mais en même temps, c'est le dieu qui apparaît comme un prince de l'Orient. Un être sur lequel on s'interroge. Et sur lequel on se pose la question de savoir s'il est du sexe masculin, féminin, si c'est un éphèbe ou une jeune fille. Mais surtout, Dionysos se pose à l'entrée de la cité et devant le palais comme le dieu qui exige que l'on joue avec lui le jeu de l'hospitalité. Et il y en a un aspect fondamental de la forme même que certains rituels dionysiaques ont déployé. D'une part, des histoires de statues. Très souvent, le culte de Dionysos voyage à travers des statues mobiles, qui sont très souvent des petites statuettes de bois ou des masques. Et des masques qui portent la folie et qui sèment le trouble dans le groupe qui reçoit ce présent. Et ce masque ou cette statue, il faut, surmontant ce trouble et pour guérir cette folie que Dionysos apporte avec son apparence, il faut les inscrire à l'intérieur de ce groupe, dans cette communauté où Dionysos a envoyé ce présent qui est cette boîte merveilleuse où son masque et sa statue se trouvent enfermés. C'est un aspect de ces légendes du culte de Dionysos. C'est la façon dont Dionysos voyage à travers le monde grec. Mais il y en a une autre qui la complète, qui la précise, et dans des rituels qui sont particulièrement bien représentés sur les bords de la mer Noire. C'est le jeu de l'hospitalité. À certains moments de l'année, ce dieu qui est inscrit dans des villes comme Olbia ou dans les colonies grecques de la Chersonèse, eh bien ce dieu, on s'accorde à le recevoir comme un dieu qui vient des lointains, comme un étranger arrivé au terme d'un long voyage et auquel on réserve une fête pour saluer dans la joie son retour parmi nous. Et ce sont les fêtes où l'on échange précisément des cadeaux d'hospitalité, et Dionysos apparaît comme le protecteur des voyageurs, des étrangers, qui à ce moment entrent dans la cité.
Dionysos se présente comme un étranger. Sa fonction à l'intérieur du mythe est d'être l'étranger qui demande l'hospitalité. Mais je crois qu'il faut bien indiquer ici qu'on doit renoncer aux mauvaises lectures de la mythologie, c'est-à-dire ne pas se laisser prendre au piège du discours mythique comme tant d'historiens qui ont voulu chercher une origine étrangère historiquement du culte de Dionysos et de la figure de Dionysos. Je crois que ce qui a fait définitivement justice de ces fausses lectures, c'est la découverte du nom de Dionysos dans les tablettes mycéniennes au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il prouve bien la présence du culte dès les origines de la civilisation grecque sous ses formes les plus archaïques. Le dieu Dionysos est un dieu grec. Sa place est une place dans le mythe grec. Cela doit être bien clair. Mais précisément, à l'intérieur du mythe, à l'intérieur de ce discours mythique, il est celui dont la fonction mythique est de représenter l'étranger, l'étrangeté, le sauvage et tout ce avec quoi la cité doit compter si elle veut vivre.
Cet étranger qui est comme le sel de la terre, notre cité en a besoin sans doute comme en avait besoin la cité grecque. Et peut-être, à travers Dionysos, pouvons-nous voir pourquoi celui qui est ici a besoin de celui qui est ailleurs. Ainsi, dans l'histoire de Dionysos, il est question d'un certain Skylas.
Skylas, un roi scythe. Un roi scythe qui découvre à la fois la Grèce et Dionysos. Et inséparablement, le dionysisme de la cité grecque. Et cette histoire, elle est racontée par Hérodote dans ses histoires, bien sûr, au livre 4, là où précisément il nous montre les Scythes, si étranges, si différents des Grecs. Parce que les Scythes n'ont pas de cité, ils n'ont que des maisons de bois, et le plus souvent, ce sont, comme les nomades, des habitants, des gens qui vivent sous la tente. Or, Skylas est un être étrange, c'est un hybride. Il est né d'une mère grecque, mais il est roi des Scythes. Et Hérodote nous raconte que le monde grec l'attire, le fascine, et qu'il vient volontiers camper à proximité de la ville d'Olbia, et à Olbia, il pénètre. Il a changé de costume. Il a laissé sa garde aux portes de la ville et il flâne dans les rues. Et il prend goût à cette vie grecque, cette vie policée. Si bien que il décide d'y entrer davantage. Or, pour s'y intégrer, il choisit de se faire initier au mystère de Dionysos, de devenir un bacchos, un possédé de Dionysos. Et c'est ce qui va le perdre dans son histoire que raconte Hérodote. Car en effet, certains des scythes, inquiets de savoir ce que le roi faisait si longtemps dans la ville d'Olbia, l'épient, le font suivre, et le surprennent au milieu d'une procession qui gesticule, qui vocifère, et ils voient passer leur roi, déguisé en initié de Dionysos, c'est-à-dire probablement avec une hébride, une peau de bête nouée autour des reins, et en même temps dans ce concert de musique bruyante. Et persuadé que leur roi est devenu non pas le plus grec des Grecs, mais un fou, eh bien, ils décident de s'en séparer et le suppriment. Et l'histoire de Skylas, elle est au centre même des rapports entre la cité et l'étranger, ou plutôt l'étrangeté de la cité. Et il est assez extraordinaire que Hérodote, pour penser les problèmes des rapports entre les Grecs et ceux qui sont les plus différents, les plus autres, à savoir ces scythes qui sont des nomades, qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas de cité, qui n'ont rien de ce qui fait la société grecque, eh bien que Dionysos ait fait passer et est utilisé comme opérateur dans son récit ce roi scythe qui devient, qui croit devenir le plus grec en entrant dans une cité par la porte de Dionysos. Et au moment où il accède à cette espèce de sagesse ultime de la cité grecque qui est ici questionnée, il apparaît aux yeux de ses propres concitoyens, aux yeux de ses compagnons les scythes, comme marqué inéluctablement par la folie.
Le chemin qu'emprunte Dionysos pour habiter l'esprit des Grecs et l'interrogation qu'il adresse à la cité, tout cela évoque la manière dont le Christ intervient dans la communauté d'Israël d'abord, puis dans l'ensemble du monde romain ensuite. Pour Dionysos comme pour Jésus, il s'agit de voir comment il y a inscription dans l'espace divin.
Cette comparaison avec le christianisme est d'autant plus justifié que une tragédie très tardive consacrée à la vie du Christ, qui s'appelait le Christus Patiens, a repris des pans entiers des Bacchantes d'Euripide, en mettant dans la bouche du Christ ce que Dionysos dit dans les Bacchantes. Je crois que Dionysos a une position assez originale dans le panthéon grec, précisément en ce qu'il est à la fois fils d'une mortelle et en même temps Dieu. Il y a quelque chose chez Dionysos d'une incarnation divine, au sens où certaines traditions religieuses emploient ce mot. On connaît les origines légendaires, n'est-ce pas, de Dionysos. Dionysos est fils de Sémélé. Sémélé est une mortelle qui appartient précisément à la famille royale de Thèbes. Et Zeus, donc le roi des dieux, enfin le principal dieu du panthéon des Olympiens, le maître des dieux, a voulu s'unir à ses mêlées, a aimé ses mêlées. Seulement, il a eu l'imprudence d'accepter de promettre à ses mêlées d'exaucer le vœu qu'elle formulerait. Et ses mêlées formulent comme vœu de pouvoir le contempler, lui, Zeus, sous sa forme absolue, sous sa forme de Zeus trônant, tenant la foudre.
Alors que généralement, dans ses unions avec les mortels, Zeus choisit toujours soit le cygne, soit le taureau, soit quelque autre figure animale.
Zeus apparaît toujours sous une forme animale. Il est le taureau qui enlève Europe, il est l'aigle qui enlève Ganymède, il est la pluie d'or pour Danaé. Alors que, dans le cas de l'union entre Zeus et ses mêlées, du fait de ce vœu de ses mêlées que Zeus avait promis d'accorder, Zeus s'est effectivement manifesté sous sa forme absolue. Ce qui, du reste, dans le mythe nous le dit, a immédiatement tué ses mêlées. Car nul mortel ne peut contempler Zeus sous cette forme absolue. Ses mêlées en est brûlée. Cette foudre la dévore. Et ce qui est intéressant dans ce mythe, c'est que ses mêlées est par conséquent la seule mortelle à avoir reçu Zeus sous cette forme, ce qui est parfaitement cohérent avec cette condition spéciale de son fils Dionysos, qui ne sera pas un simple héros, comme la plupart des autres enfants de Zeus unis à une mortelle, mais qui sera d'emblée un dieu. Mais c'est un dieu qui a une condition humaine. C'est un dieu qui existe dans le temps historique, puisqu'il s'inscrit dans le cadre chronologique de l'histoire des origines de Thèbes. Alors que dans le mythe, les dieux ont un récit qui est hors du temps historique. Dionysos s'inscrit dans le temps historique. Il s'inscrit dans la géographie historique. Il a ce caractère qu'ont les héros. Mais il est en même temps immédiatement perçu et reçu comme un dieu. Et là est sa parenté étrange, en effet, avec des personnages comme le Christ ou d'autres types d'incarnations divines de la mythologie, comme Krishna, par exemple. Il y a quelque chose de cela chez Dionysos.
Mais lorsque Sémélé est frappé par la foudre, par le feu de Zeus, l'enfant vient à peine d'être conçu. Il va donc mûrir d'une manière bien singulière.
Oui, alors, devant ce manque de matrice que représente la mort de Sémélé, Zeus offre son propre corps, sa cuisse, pour continuer la maturation de l'enfant qui vient de concevoir. Et c'est finalement dans la cuisse de Jupiter qu'aura lieu la gestation complète de Dionysos. Quittant en somme, en plus de toutes ses autres caractéristiques, il y a celle d'être né deux fois.
Cette double naissance porte en elle son maléfice et son bénéfice. Comme beaucoup des enfants divins de la mythologie, Dionysos est d'abord orphelin. Et son premier état est la solitude. Mais au-delà de la solitude, il y a protection singulière des dieux, et c'est un thème que nous retrouverions dans l'épopée finnoise du Kalevala, on le retrouverait aussi aux Indes, dans la légende de Narayana. De toute façon, l'origine de l'enfant divin est entourée de mystères. Et toute interrogation sur le dieu, et le Christ est dans la même situation, est une interrogation sur ses commencements.
Dionysos est en effet un dieu dont on raconte plus longuement que pour un autre les enfances. La plupart des Olympiens surgissent à l'âge adulte. Et leur naissance ou la manière dont leur croissance s'accomplit est très souvent gommée ou laissée à l'arrière-plan. Au contraire, la plupart des récits sur la difficulté pour Dionysos de vivre dans certains de ces pays mythiques, c'est d'être sans cesse pourchassé par des ennemis comme Lycurgue, le terrible roi des Édoniens, des Thraces, qui l'agresse, qui le poursuit, lui et ses nourrices, avec une hache et une violence extrême. Et une des marques de l'inscription de Dionysos dans l'humanité, dans la condition humaine, c'est la relation très étroite que Dionysos entretient avec une anthropogonie, un récit sur les origines de l'humanité. Et de ce point de vue encore, toutes les confusions et tous les rapprochements pertinents avec le christianisme sont possibles, c'est-à-dire s'inscrivent dans cette forme particulière d'humanité de Dionysos. Alors le récit, c'est celui que tient, que raconte la théologie des orphiques, qui sont préoccupés plus que d'autres de savoir comment l'homme est apparu sur Terre et comment son histoire commence, s'inscrit à la fois dans une histoire divine et dans un projet qui englobe le monde et les différents âges de l'humanité. Et Dionysos apparaît alors sous la forme d'un enfant. Il est ce petit enfant que l'on séduit par des jouets, une pomme, une poupée articulée, un peigne, et profitant de sa distraction, de l'occupation où il est à jouer, les personnages qui l'entourent, qui s'appellent les titans, qui sont à la fois des dieux très anciens et en même temps des êtres qui sont déjà en marche vers une autre forme d'existence qui est presque celle des hommes dans leur méchanceté, ces titans s'en emparent et le mettent à mort. Et l'histoire raconte comment Zeus, alerté par le bruit, par la rumeur de ce sacrifice, s'en vient et frappe violemment de sa foudre les titans, qui sont réduits en cendres. Or, dans ce repas qui a suivi la mise à mort de Dionysos, un morceau a échappé à la voracité des titans. Et ce morceau, c'est le cœur du petit Dionysos. Et ce cœur, il est la vie même de cet être. Et à partir du cœur, le corps entier va être reconstitué. Le corps, comme un tissu, va se déployer à nouveau et Dionysos va renaître, selon le récit des orphiques. Mais des cendres des titans et des titans qui ont mangé les morceaux de Dionysos, eh bien, va surgir l'espèce des hommes que nous sommes, c'est-à-dire mangeurs de viande, carnivores à la limite du meurtre, et sans cesse préoccupé de faire le mal.
C'est-à-dire que le meurtre de Dionysos, c'est le premier signe du mal dans la cité des hommes.
Le mal, à ce moment-là, entre en même temps que l'humanité, inséparablement. Il entre par l'intermédiaire de cette activité d'alimentation, cette voracité alimentaire qui va être la marque de l'espèce humaine.
On comprend que la cité grecque est alors la tentation d'oublier jusqu'au souvenir de Dionysos, puisqu'il est la trace même de ce mal qui préside aux origines de l'espèce. Mais pour rentrer quand même parmi les hommes, Dionysos n'hésite pas à jouer du miraculeux, du merveilleux.
Le mythe orphique est un mythe particulier, qui est un peu à part par rapport au reste de la mythologie de Dionysos, même s'il est probablement très central, je pense, dans certains aspects de la tradition dionysiaque. À côté de ce mythe, qui au fond est contradictoire avec les autres qui insèrent l'histoire de Dionysos dans le temps historique, puisque ce mythe se présente comme avant l'humanité, au moment de la naissance de l'humanité. À côté de ce mythe, il y a une foule de récits concernant Dionysos et qui toujours intègrent Dionysos au temps humain. Et en effet, l'arme qu'on voit souvent Dionysos utiliser, c'est l'arme du merveilleux.
si Dionysos se meut dans le merveilleux, c'est que sa naissance déjà s'inscrit dans une sorte d'éclatement de la création qui ouvre à la fois à l'anéantissement et à la résurrection. Et l'on pourrait rapprocher l'étrange recréation qui s'accomplit autour du cœur de Dionysos après son démembrement par les titans de certains itinéraires de la tradition alchimique qui nous conduisent vers la même représentation. Ainsi, comme nous le raconte Jung dans Les Racines de la Conscience, Zosime de Panopolis, alchimiste et gnostique du IIIe siècle, nous dit dans sa deuxième vision, ayant entendu la voix de celui qui se tenait debout sur l'autel en forme de coupe, je l'interrogeai voulant savoir qui il était. Et il me répondit d'une voix grêle, disant « Je suis Yon, le prêtre des sanctuaires les plus intérieurs et les plus secrets, et j'endure un châtiment intolérable. Car quelqu'un est venu de grand matin en toute hâte, et il m'a démembré en suivant la composition de l'harmonie, et il a arraché la peau de ma tête à l'aide du glaive qu'il tenait avec force. Il a joint ensemble mes os et ma chair, et les a brûlés au feu suivant l'art, jusqu'à ce que j'ai appris comment mon corps se transformait et comment je devenais esprit, et c'est là mon supplice intolérable. Et comme il m'expliquait encore ces choses et que je le contraignais à parler, ses yeux devinrent comme du sang, et il vomit toutes ses chairs, et il se déchira lui-même avec ses propres dents, et il s'affaissa en lui-même. » Et cet univers de la métamorphose que nous retrouvons dans les récits gnostiques, cette métamorphose par transmutation d'une chair qui est esprit, cet univers, il est familier à tous l'ésotérisme tant oriental qu'occidental. Et c'est à partir de cette métamorphose première que Dionysos peut avoir appui sur l'ensemble d'une création qui est elle-même en constant changement. D'où les pouvoirs du dieu d'inverser la création, de lui donner un masque, de la rendre émerveillée. Et c'est ce qui illustre l'histoire des pirates. Dionysos apparaît au bord de la mer sur un promontoire. C'est un adolescent drapé dans un ample vêtement rouge sombre. Et les pirates qui passent par là le prennent pour un fils de roi et ils décident de s'emparer de lui pour le mettre à rançon. Le dieu se laisse faire, mais quand les pirates veulent l'attacher, les liens tombent de ses mains et les entraves de ses pieds. Parmi les matelots, il en est qui insiste pour qu'on libère le prisonnier, car si c'est un dieu, il risque de conduire le bateau au naufrage. Mais d'autres s'obstinent, et le navire appareille. Alors commencent les miracles.
C'est du vin d'abord que d'une extrémité à l'autre du fin voilier, et sur ses flancs noirs, on entend ruisseler. Du très bon vin, d'un excellent bouquet, qui répand un parfum divin. À cette vue, la peur s'empare déjà de tous les matelots. Et soudain, tout au sommet de la voile, se déploie une vigne qui envahit tout. D'innombrables grappes y pendent. Et autour du mât s'enroule un sombre lierre tout éclatant de fleurs. De beaux fruits y éclosent. Tous les orifices des rames ont des couronnes. À ce spectacle, on dit au pilote de mettre le cap sur terre. Lui, cependant, il se métamorphose sur le bateau en un lion terrible qui se dresse à la poupe. Il fait entendre des effroyables rugissements. Et puis, c'est une ourse à la nuque hérissée qu'il suscite au beau milieu par manière de prodige. Elle se dresse en grognant. Et le lion sur le château arrière roulait des yeux effroyables. Eux, la terreur les serre sur la proue autour du pilote qui avait montré sa sagesse. Il reste là, immobile, cloué par la peur. Lui bondit soudain et enlève le capitaine. Oust ! Dans la crainte d'un sort aussi funeste, tous, comme un seul homme, à cette vue sautent dans la mer divine. Les voilà métamorphosés en dauphins. Mais lui avait compassion du pilote. Il le combla de richesses et lui dit « Rassure-toi, divin Hécator, je suis Dionysos, le très bruyant, qu'enfanta sa mère la cadméenne Sémélée, qu'aima Zeus. »
Voici donc l'embarcation transformée en un bateau chimérique où viennent trouver abri toutes les formes de la vie naturelle. Jean-Pierre Darmon.
Dionysos apparaît ici comme le maître de l'illusion, de la fantasmagorie. Et en même temps, cette fantasmagorie, cette illusion, elle est réelle. C'est-à-dire qu'elle est l'irruption de la vie dans ce qui n'était que bois mort. Elle est l'irruption des animaux sauvages dans ce lieu où ne se trouvaient que des hommes. À travers un récit comme celui-là, Dionysos, au même moment où il apparaît comme le maître de l'illusion, de l'apparence et le masque et le symbole même de Dionysos, il apparaît comme le dieu de la nature sauvage, le dieu de ce qui vient de la puissance de la vie elle-même. Et le symbole utilisé ici, par exemple, est celui de cette végétation qui soudain envahit tout.
Dionysos magicien est inséparable du Dionysos maître de la nature. Et si Dionysos en effet a un privilège incontestable qui est celui que l'on pourrait appeler le monde de la Maya, c'est-à-dire de jouer autant qu'il le veut et sans limite de toutes les formes du monde, de la multiplicité des êtres, des animaux, et des plantes, il est aussi, de manière privilégiée, et cela se marque très bien dans son culte, le magicien qui fait surgir ce monde de la verdure, ce monde des plantes, ce monde des arbres et de l'arboriculture. Et Dionysos affectionne particulièrement, pour le culte qu'on lui rend, des cavernes, des trous dans la roche, des creux dans la terre, mais où toujours les murs doivent être tapissés de verdure. Et cela porte le nom grec de stibadeion, mais qui veut dire tout simplement la jonchée, c'est-à-dire que cet espace, il est, par les soins des dévots de Dionysos, empli de ces plantes grimpantes, de ce lierre, de ces vignes sauvages, et que Dionysos n'est lui-même que dans ce cadre végétal où il peut apparaître encore sous la forme d'une statue ou à travers un masque, mais où il est déjà présent par la seule richesse de ce décor végétal.
Oui, mais cette relation de Dionysos avec les plantes apparaît d'une singulière complexité. Dans le récit des pirates, nous avons vu s'introduire deux espèces privilégiées, la vigne et le lierre. Or, rien, à première vue, ne semble rapprocher le lierre, qui est une plante froide, stérile, Et cette vigne qui va fournir aux hommes le chemin même de leur délivrance. Alors, que veut dire ce lierre ?
Eh bien, le lierre est l'objet de longues discussions parmi les savants, que plus tard, que par exemple Riudi dans le livre qu'il appelle « Les questions de banquet ». À l'occasion d'un banquet, un certain nombre de personnages sont interrogés sur la nature d'énigmes, soit cultuelles ou religieuses. Et le lierre, certains prétendent qu'il est froid, humide, et que c'est une plante dont la vie est en quelque sorte absente. Tandis que d'autres affirment, avec de très bons arguments, que dans le lierre, il y a du feu. Et un feu si violent que, paraît-il, le lierre, mis en contact avec la flamme, éteint cette flamme, noie ce feu sous la violence de son propre feu. Et les tenants de la nature chaude, de la nature ignée du lierre, ont pour eux un certain nombre d'observations sur les excitants, les toxines que renferme le lierre. Le lierre à partir duquel on peut provoquer certaines formes d'ivresse inférieure.
Dans l'herbier dionysiaque, multiples sont les plantes. Mais les dieux disputent à Dionysos quelques-unes de ces plantes comme le laurier et l'olivier.
Dionysos règne sur toutes les plantes sans distinction. Mais dans ce monde du partage qui est celui du Panthéon, où chaque dieu reçoit un certain nombre de privilèges et certains honneurs, eh bien, le laurier, par exemple, n'appartient pas à Dionysos, il est l'arbre d'Apollon. De même, l'olivier appartient, malgré sa nature ignée et en quelque sorte sa vocation à une destinée dionysiaque, l'olivier appartient essentiellement à Athéna. Et la plante, les plantes sur lesquelles Dionysos règne davantage et sans conteste, ce sont ces plantes grimpantes et proliférantes dont le meilleur exemple est la vigne, qui existe à la fois sous la forme d'une plante sauvage, de là tous ces récits qui prétendent que la première grappe, elle était cueillie dans cette nature lointaine où l'homme n'avait pas encore introduit des techniques de culture, ou bien elle est acclimatée et introduite dans les vergers, et précisément, elle vient, selon les techniques de culture des Grecs et aussi des Romains, que les Italiens ont prolongé jusqu'à présent, elle vient se déployer, elle monte le long de l'arbre, et elle est en quelque sorte comme une liane, mais une liane qui porterait des fruits, et des fruits dont on extrait le vin de Dionysos.
Cette obsession, à travers Dionysos, de la vie végétale, c'est l'obsession de cette force créatrice, de ce feu premier qui est au centre de toute forme vivante. Vivre avec Dionysos, c'est vivre avec cette étincelle qui indéfiniment reproduit le premier passage du chaos à l'existence.
Le lien entre Dionysos et la végétation, c'est bien cette idée de son lien avec l'énergie vitale. Et avec ses forces souterraines d'ailleurs, chthoniennes comme on dit, ce qui est un des caractères de Dionysos, d'être en liaison avec le monde souterrain, cette énergie souterraine qui fait surgir les plantes, cette force irrépressible qui fait que les palais de marbre les plus audacieux justement peuvent être réduits en ruines par l'irruption du lierre par exemple. Et cette idée du feu vital qui habite la végétation, elle se trouve symbolisée admirablement par le vin lui-même, par ce liquide que l'on tire de la vigne de Dionysos. Ce vin qui est, comme disaient les Grecs, un pharmakon.
C'est-à-dire à la fois un poison et en même temps un contre-poison, un remède. un remède, le moyen de sauver l'être, de le régénérer, et en même temps, le moyen aussi d'accéder à un état différent et supérieur.
Oui, ce poison, et en même temps ce contrepoison, cette boisson extrêmement dangereuse qu'est le vin, n'est pas consommable tel quel, à moins de précautions extraordinaires et uniquement comme contrepoison. Ce n'est pas une boisson humaine dans son état pur. Elle est habitée par une force trop grande.
Et c'est ce que raconte précisément l'histoire d'Icare. Icare, le père d'Érigone. Érigone, la Vierge, la constellation de la Vierge. Icare reçut un jour, comme un hôte extraordinaire, Dionysos. Et Dionysos, le voyant boire du lait, lui présenta l'outre de vin qu'il traînait avec lui. Et Icare, tout heureux d'avoir reçu ce présent merveilleux, décide d'en faire profiter les cultivateurs du coin, les bergers du voisinage. Et le drame, c'est que ces hommes, sans précaution, se mettent à boire ce liquide extraordinaire dont on nous dit que le parfum captive et déjà rend à moitié ivre, et ils le boivent, ce vin de Dionysos, sans connaître les règles du bon usage de ce vin, c'est-à-dire pur. Immédiatement, ils tombent comme foudroyés et persuadés que Icare et l'étranger venu chez Icare ont voulu empoisonner les gens du pays, tous les paysans décident d'entreprendre une grande chasse pour capturer l'étranger. Et précisément, les histoires qui s'inscrivent dans une manière de boire le vin, les manières de table qui impose le vin dans la société des hommes, c'est de nous raconter comment tel personnage astucieux, très souvent un roi, a trouvé l'équilibre entre l'eau et le vin. Comment, pour la première partie du banquet, l'on devait d'abord faire une libation de vin pur à Dionysos ou à quelque héros appelé du vin pur, qui était seul capable de supporter cette boisson extraordinairement forte, qui est un feu qui brûle. Et dans la seconde partie du banquet, puis la troisième, l'on allait progressivement vers des vins différemment coupés, mais qui permettaient à l'homme de ne jamais être jeté dans cet état de folie, dans cette espèce de stupeur, qui annule d'une certaine manière les vertus d'ivresse extatique, les vertus qui permettent à l'homme de s'enivrer, c'est-à-dire de sortir de lui-même, que le vin contient s'il est bien utilisé, si l'on le boit selon les règles.
Le pain, qui est le fondement de la civilisation matérielle, nourrit les hommes. Mais le vin, lui, les fortifie grâce à une certaine force volatile, une force que depuis toujours on appelle esprit. Et ce vin, il engendre l'extase, ce dérèglement de tous les sens où la création trouve son sens véritable.
C'était L'autre scène ou Les vivants et les dieux, une émission de Claude Métra et Philippe Nemo. Aujourd'hui, Les métamorphoses de Dionysos, avec Jean-Pierre Darmon et Marcel Détienne et la collaboration de Robert Martin. Assistante de réalisation, Micheline Ortlieb. Lundi prochain, L'angoisse avec Serge Leclerc, Paul Ricoeur et Julie.
C'était un numéro de L'autre scène où les vivants et les dieux, consacré aux métamorphoses de Dionysos, de Claude Métra et Philippe Nemo, avec l'historien Marcel Détienne et l'historien et archéologue Jean-Pierre Darmon. Première diffusion le 16 février 1976 sur France Culture.